RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète, c'est parti comme chaque dimanche soir avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Alors comme chaque dimanche, on commence avec un son de la nature, un son mystérieux.
Oui, et comme chaque fois, je donne un indice.
Oui.
Il porte le surnom de Bernard Hinault.
Bernard Hinault, bon.
Ça vous rappelle quelque chose?
Mais il a jamais gagné le Tour de France, lui. Oui. Hein. Bon, alors on l'écoute.
Sacré coup de pédale.
Ah, j'ai pas reconnu Bernard Hinault, mais bon. Évidemment, vous nous donnerez la réponse en fin d'émission. Alors Alain, si on connaît bien évidemment les refuges qui sont destinés aux animaux de compagnie, évidemment la SPA, assistance aux animaux, il y a d'autres associations, on connaît bien moins en revanche les refuges pour la faune sauvage, et pourtant ils existent et vous avez décidé de nous en parler ce soir.
Oui, alors ils sont au nombre de 102, territoires d'outre-mer inclus, et ont vocation à prendre en charge la faune sauvage en détresse. Certains sont spécialisés, comme Océanopolis à Brest, qui accueille, on le sait, les phoques. Ouais. D'autres s'attachent à protéger les hérissons, comme le sanctuaire des hérissons de la Somme. D'autres encore recueillent des écureuils, comme à Congy-sur-Thérouanne. C'est près de Meaux. Et puis, il y en a aussi pour les chauves-souris, les lynx. Mais la majorité reçoit toute la faune en péril, qu'il s'agisse de mammifères, d'oiseaux, voire de reptiles ou d'amphibiens. Point commun à tous ces centres, ils font reculer la souffrance et évidemment la mort.
C'est incroyable. Moi, j'irais bien voir le sanctuaire des hérissons.
Ah, ouais, ouais, c'est une fille admirable.
Ça doit être passionnant.
Ouais, ouais, ouais.
Dites-nous justement, qui les gère, ces centres?
Alors, sont le plus souvent des bénévoles, encadrés par quelques salariés, quand les finances le permettent, avec un double objectif, soigner les animaux, bien sûr, je l'ai dit, mais faire ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation faune sauvage, en clair, répondre aux nombreuses demandes du style « j'ai trouvé un oiseau au pied d'un arbre »,« il y a une fouine dans mon grenier »,« est-ce que j'ai le droit de ramasser une tortue », etc. Rien qu'au standard de la LPO, on gère 6000 appels de ce genre chaque mois.
Et est-ce qu'il y a des période particulièrement sensible?
Oui, évidemment, l'hiver, lorsque le froid est trop intense ou durable, mais surtout le printemps et le début de l'été, durant la période de nidification. Les martinets, par exemple, qui viennent d'arriver à Paris, du reste, nichent dans des trous de mur ou sous des tuiles. Avec le réchauffement climatique, à peine nés, les poussins subissent des températures atteignant les 40 degrés. Alors, ils se jettent dans le vide pour échapper à la fournaise, et c'est par dizaines, par centaines qu'ils sont apportés dans les centres, et chaque centre doit offrir 5 repas minimum par jour. C'est un véritable sacerdoce. Les quelques 2000 bénévoles des centres de soins assument cette tâche, et puis bien d'autres.
Oui, parce qu'on rappelle, un martinet qui tombe au sol, il peut pas repartir.
Et puis là, ce sont des poussins qui sont même pas en plumage, donc voilà, il faut les prendre en charge.
On a un bilan qui permettrait d'apprécier cet engagement pour la faune sauvage.
Alors, le réseau Centre de soins faune sauvage français considère que chaque salarié doit gérer près de 80 000 journées d'hospitalisation d'animaux. Ça conduit à assumer 100 heures de travail par semaine en période estivale. Et malgré cet investissement, les soigneurs restent toujours insatisfaits, bien que plus de 45% des animaux soignés, c'est-à-dire ceux qui ont survécu au-delà de 24 heures, sont relâchés dans la nature. C'est un bon score, quoi. Et cela représente plus de 13 000 animaux en 2020, avec en tête de liste les hérissons dont on a parlé, et puis les martinets qui arrivent en plus grand nombre, mais aussi des chevreuils, des loutres, des vautours et tant d'autres victimes. Mais Vincent, pour en savoir plus, nous avons en ligne Jean-François Courreau, qui créa le centre de soins de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui marche toujours du reste, et qui est l'actuel président du réseau Centre de soins faune sauvage français.
Bonsoir Jean-François Courreau.
Bonsoir.
Merci de refaire la planète avec nous ce soir. Dites-nous, qu'est-ce qui affecte aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui touchent, qui affectent la faune sauvage?
Alors aujourd'hui, on fait le constat que d'autres ont pu faire de la fragilité de la faune sauvage, notamment liée aux activités humaines qui s'intensifient, ça c'est très clair, avec beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de pesticides, etc. Donc on constate cela sur les animaux que nous accueillons. Nous voyons aussi en parallèle, et je dirais c'est réconfortant, une plus grande sensibilité du public vis-à-vis de la souffrance animale. qu'elles soient domestiques ou sauvages. Et maintenant, donc, pour la faune sauvage, beaucoup de personnes n'hésitent pas à recueillir un animal sauvage en détresse, donc un blessé, un malade, un petit orphelin, pour l'apporter au centre de soins et parfois en faisant de très longues distances.
Si on prend l'exemple des hérissons, ça, on a toujours vu d'ailleurs des hérissons qui traversent les routes, écrasés. Ça s'est aggravé ces dernières années ou ces dernières décennies?
Alors, le paradoxe, vous l'avez peut-être constaté vous-même, c'est qu'on voit moins de hérissons écrasés.
On en voit presque plus.
Moins de hérissons. Il y a malheureusement moins de hérissons, notamment dans le milieu rural, où la densité s'est effondrée, à cause notamment de la baisse du nombre de proies liée à l'activité spéticide, malheureusement. Et on rencontre maintenant, disons, les dernières populations, si on peut dire, denses, en périphérie des grandes villes, où ils trouvent des abris dans les espaces verts urbains et les jardins des particuliers.
Comment on se situe, nous, en France, par rapport à d'autres pays équivalents dans l'organisation et le traitement de la faune sauvage?
Alors, les situations sont extrêmement diverses. Alors, vous avez les États qui sont des fédérations, je pense, plus ou moins de fédérations, je pense à l'Espagne ou en Allemagne. Là, c'est vraiment effectivement une politique donc locale, avec parfois des aides pour les associations qui soignent la faune sauvage. Je dirais que le modèle dont on rêve tous, nous, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous avez des grands trusts caritatifs qui dépensent des sommes colossales pour leurs hôpitaux animaliers. Là, vraiment, effectivement, c'est formidable. Nous, ce qu'on réclame en France, bien entendu, c'est parce qu'on est comme ça en France, on se tourne vers l'État. Et l'État, actuellement, n'a pas encore considéré l'intérêt des centres hospitaliers pour animaux sauvages. On a fait découvrir, il y a peu de temps, au ministère de l'Environnement, combien la situation était difficile, puisqu'il y a une augmentation de l'ordre de 20% par an des accueils d'animaux, alors qu'évidemment les finances des centres qui sont basées essentiellement sur les dons des particuliers de quelques mécènes privés n'augmentent pas autant, évidemment.
Bien évidemment. Oui, Jean-François, les bénévoles et salariés qui travaillent dans ces centres de soins sont souvent victimes de ce qu'on appelle le syndrome d'usure compassionnelle. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est tout à fait vrai, Alain. Il est vrai que lorsque on accueille au plus fort de la saison, donc effectivement fin de printemps, début d'été en particulier, dans les grands, mettons, plusieurs dizaines d'animaux, ça monte parfois jusqu'à une centaine par journée, qu'on a des centaines d'animaux hospitalisés en même temps, on ne compte pas son temps. Et on ne compte pas son temps, ça veut dire qu'on fait des journées doubles, c'est-à-dire qu'on peut faire 15, des gens connaissent qui font 20 heures par jour quand c'est nécessaire. Et malgré tout, on ne peut pas tout sauver. Et ça ressemble tout à fait à ce qui se passe au milieu hospitalier lorsque les gens sont débordés par la tâche. On voit des gens qui n'en peuvent plus, qui s'effondrent parce que c'est trop dur de voir mourir autour de soi sans pouvoir tout sauver et en disant qu'on n'a pas tout fait.
Quels sont les conseils que vous pouvez donner à celui qui trouve un animal sauvage, qui est blessé, malade, à l'évidence en difficulté?
Les centres de soins de la faune sauvage sont des centres qui travaillent en professionnel et c'est là qu'on trouve effectivement les capacités de soins. Donc, le premier conseil qu'on donne aux particuliers qui ont trouvé un animal en détresse, c'est de ne rien faire. De ne rien faire, ça veut dire ne pas intervenir médicalement, surtout pas. En règle générale, ne pas donner de nourriture aussi parce qu'il y a de grossières erreurs qui sont faites et qui sont préjudiciables pour l'animal. Et ensuite, c'est surtout, sans avoir fait de soins, l'apporter le plus vite possible à un centre qui est, en somme, la seule structure en France qui puisse accueillir la faune sauvage en détresse.
Bon, et ça, ce centre, on le trouve sur Internet? On trouve son adresse sur Internet?
Oui, alors vous avez une carte des centres de soins qui figure sur le site, c'est la carte la plus complète, qui se trouve sur le site du réseau de centres de soins faune sauvage, où les gens pourront trouver le centre de soins le plus proche de chez eux.
Merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci Jean-François Courreau. Je rappelle quand même que c'est vous qui avez créé le centre de soins de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Qu'on nous envie quand même un petit peu partout.
Remarquable.
Merci.